Les dessous de l'Infox, Sophie Malibeau.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'Infox. La désinformation économique, une arme qui altère la perception du réel par les parties en conflit. C'est tout l'enjeu derrière la bataille des récits sur les sanctions économiques contre la Russie. Sont-elles efficaces? Qui en souffre le plus? Le sujet est instrumentalisé des deux côtés. Pour y voir plus clair, nous interrogerons l'économiste Agathe Desmarais, experte en géoéconomie au Conseil européen des affaires étrangères. Une catastrophe naturelle créée de main d'homme sur fond de compétition électorale, c'est le scénario complotiste qui circule sur les réseaux sociaux à propos de l'ouragan Milton en Floride, un grand classique de la désinformation. On y revient dans un instant avec Grégory Genevrier dans la chronique Les Dessous de l'Infox. Mais tout de suite, notre invité. La guerre des narratifs fait rage dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine et ses alliés. Tout comme sur le terrain militaire, le brouillard de la guerre empêche d'y voir clair sur l'efficacité ou non des sanctions adoptées contre la Russie. Bonjour Agathe Desmarais.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors vous menez les travaux pour le Conseil européen pour les relations internationales dans le domaine de la géoéconomie et des sanctions précisément. Aujourd'hui, cette question de l'efficacité de ces mesures restrictives est instrumentalisée par les deux parties en présence. Clairement, dans le camp pro-russe, on a tout intérêt à ce que les Européens se divisent sur cette question.
Oui, évidemment. Il y a un fort intérêt côté russe pour que les Européens se divisent sur la question des sanctions, puisque côté russe, ce qu'on souhaite, c'est à minima que de nouvelles sanctions ne soient pas imposées contre la Russie. Et dans le meilleur des cas, le rêve de Vladimir Poutine, ce serait probablement d'obtenir une levée des sanctions. Et en fait, ce que cela montre, c'est bien que ces sanctions ont un effet sur l'économie russe, puisqu'on peut tout à fait penser que si ce n'était pas le cas, peut-être que la Russie mettrait moins de moyens en œuvre pour faire de la désinformation sur l'efficacité des sanctions.
Et alors justement, de nouvelles sanctions, il en intervient de plus en plus. On a appris donc le 8 octobre l'adoption d'un nouveau régime de sanctions contre les menaces hybrides de la Russie. De quoi s'agit-il?
Alors, ce qu'on va appeler menaces hybrides de la part de la Russie, ça va être des menaces justement dans le domaine de la désinformation pour essayer d'alimenter les divisions côté européen quant à l'efficacité des sanctions, mais également ce qu'il se passe en Ukraine. Ça va être en fait d'avancer des narratifs qui arrangent la Russie ou qui répondent aux besoins du Kremlin. Et donc l'idée de ces sanctions, c'est de rendre cela plus difficile pour Moscou. Comment est-ce qu'on fait en pratique? On va imposer des sanctions contre des individus ou des organisations qui participent aux opérations de désinformation russe, mais c'est évidemment très difficile, c'est un jeu du chat et de la souris, puisque ces sanctions, en pratique, gèlent leurs avoirs et leur interdisent de voyager en Europe, mais ces personnes, très rarement, viennent en Europe, bien évidemment. Donc c'est vraiment un jeu du chat et de la souris. Et quand on ferme un réseau, il y en a un autre qui va rouvrir.
Oui, parce que cette désinformation coordonnée qui intervient sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, on en parle beaucoup dans cette émission, tout le monde n'a pas la même réaction en Europe même par rapport à ça. Un pays comme la Hongrie ne perçoit pas la désinformation russe de la même façon que d'autres pays comme la Pologne, par exemple.
Oui, tout à fait. Et les histoires de chaque pays informent également les positions vis-à-vis de la Russie. Et on voit qu'aujourd'hui, les Européens sont de plus en plus divisés sur la question russe, ce qui fait évidemment les affaires du Kremlin. Vous avez cité la Hongrie, par exemple, mais on voit également que dans plusieurs pays, notamment du sud de l'Europe, je pense par exemple à la Grèce, à Chypre, à Malte, mais aussi dans une moindre mesure peut-être à l'Italie, on va avoir un sentiment d'amitié ou d'affinité avec la Russie qui est plus fort depuis de nombreuses années. Et évidemment, l'idée de la Russie, ça va être d'alimenter ces divisions puisque les sanctions sont adoptées à l'unanimité de tous les pays européens. Il faut que les 27 pays unanimement les adoptent. Donc si un pays met son veto, pas de nouveau de paquet de sanctions.
Oui, mais on voit bien qu'on y parvient tout de même à en adopter puisque cette nouvelle mesure vient d'être prise.
Oui, exactement. Et en fait, c'est vraiment un signal très positif depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. C'est que malgré probablement les attentes du Kremlin, le Kremlin ne s'attendait probablement pas à des sanctions fortes, coordonnées et sur la durée des Européens. Les Européens ont tenu bon malgré les pays qui ont plus d'affinité vis-à-vis de la Russie. Ça, c'est une grande victoire dans la solidarité européenne.
Alors, on parlait dans ce nouveau train de sanctions de la désinformation, mais il y a aussi l'instrumentalisation de la question des migrants. Et il y a aussi, évidemment, les activités visant à saper les processus électoraux. C'est très important en Europe. Ainsi que des menaces et de sabotage économique. Donc ça, les Européens ont réussi à se mettre d'accord là-dessus.
Oui, puisqu'on voit en fait une prise de conscience au niveau européen de la menace que la Russie fait peser sur les infrastructures européennes, que ce soit les infrastructures d'énergie ou également les infrastructures de transport. En fait, on voit des menaces qui émergent de la Russie. On voit des menaces extrêmement claires hein, qui viennent de Moscou, de dire, écoutez, on pourrait viser vos infrastructures. Et donc les Européens, là-dessus, il y a une véritable prise de conscience dans un contexte où on parle également de plus en plus de sécurité économique en Europe, c'est-à-dire de l'intersection entre les questions économiques et les questions de sécurité nationale. Et les Européens parviennent à se mettre d'accord sur ces sujets, également parce qu'il est très difficile de minimiser aujourd'hui la menace que la Russie fait peser sur l'Europe. Elle est assez évidente.
Alors, il y a quelques mois, 7 ministres des Finances européens ont signé une tribune pour dénoncer le mensonge propagé par Vladimir Poutine sur l'excellent état de son économie. Vous, Agathe Desmarais, est-ce que vous nous diriez qu'on dispose de suffisamment d'informations pour évaluer justement le niveau de cette économie russe ?
Alors, en fait, pour évoluer le niveau de l'économie russe aujourd'hui, je dirais qu'il paraît évident qu'il y a un problème puisque la Russie cache les statistiques. Les statistiques économiques russes aujourd'hui, on en a de moins en moins, on y a accès de plus en plus difficilement. Et cela, venant d'une dictature, signale quand même qu'il y a un petit problème. La Russie n'est pas le seul pays à faire ça. Hein. Par exemple, la Chine, récemment, a cessé de publier tout un tas de données sur les statistiques liées au travail et au chômage des jeunes. Donc, le premier paramètre, c'est de se dire que si la Russie cache les statistiques économiques, il doit bien avoir une raison à cela. Donc, la véracité des statistiques est quand même très, très douteuse. Ensuite, il y a la question de ce qu'on mesure. On va mesurer, par exemple, la production de missiles dans les statistiques du PIB. Alors certainement, comme la Russie est une économie de guerre aujourd'hui, cela va gonfler les chiffres de la croissance. Mais ce n'est pas ça qui va produire de la richesse pour la population russe. Et enfin, il y a la question justement de la population russe. Une partie de la désinformation russe concernant les sanctions européennes vise à dire « Les Russes vivent très bien aujourd'hui, malgré les sanctions, donc c'est que les sanctions sont totalement inefficaces, c'est QFD. » Mais les sanctions n'ont jamais eu pour objectif de pénaliser la population russe. Les sanctions ont pour objectif de limiter la capacité de la Russie à financer la guerre et avoir accès aux outils technologiques pour faire la guerre. Et en ce sens, on peut dire qu'elles sont efficaces puisqu'on voit que les ressources du Kremlin diminuent pour faire la guerre grâce à des mesures, par exemple, notamment sur les exportations russes de matières premières énergétiques.
Oui, mais il y a un peu plus de 2 ans et demi, donc quelques jours après le déclenchement de l'invasion russe, on pouvait entendre le ministre de l'économie française, qui était alors Bruno Le Maire, dire ceci.
Je tiens à dire que ces sanctions contre la Russie seront immédiates, lourdes et efficaces.
Et dans la foulée, donc il prévoyait l'effondrement de l'économie russe. D'où vient finalement cette résilience qu'on voit ? Parce que malgré tout, la Russie parvient à garder un effort de guerre important.
Alors, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte quand on regarde l'efficacité des sanctions. Déjà, le premier problème, c'est qu'on n'a pas accès aux contrefactuels, c'est-à-dire ce qui se serait passé en l'absence de sanctions. Peut-être que Vladimir Poutine aurait pu mener une offensive encore plus importante en Ukraine, voire s'attaquer à d'autres pays. Ensuite, imaginez que les sanctions peuvent mettre à genoux ou provoquer l'effondrement d'une économie comme la Russie, qui, lors du déclenchement de l'invasion contre l'Ukraine, était la 8e économie mondiale. Cela paraît très difficile puisque la Russie a accès à beaucoup de ressources financières, technologiques, pour puiser dans des réserves pour financer la guerre. Simplement, la question aujourd'hui, ça va être quand est-ce que ces réserves vont s'épuiser ? Puisqu'on voit que les ressources du fonds souverain russe, par exemple, les ressources liquides, ont fondu de moitié depuis le début de la guerre, parce que la Russie tape dans ses réserves pour financer la guerre.
Mais quand le ministre parlait de mesures immédiates, lourdes et efficaces, c'est un narratif, c'est un petit peu la méthode Coué, parce qu'on le sait que ce n'est pas si facile d'être aussi immédiat sur les sanctions. La preuve, on en est au 14e paquet de mesures.
Alors, je dirais que les sanctions les plus efficaces et les plus importantes ont probablement été mises en œuvre dès 2022. Et du côté européen, la mesure la plus importante pour Moscou notamment, ça va être l'embargo européen sur les importations de pétrole russe. Et ça, c'est une mesure qui pénalise énormément Moscou. Des calculs de la Kiev School of Economics montrent que la Russie a perdu près de 80 milliards de dollars de recettes pétrolières depuis le début de la guerre à cause de cette mesure. Maintenant, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a probablement eu une volonté occidentale d'aller plus loin dans les sanctions et d'avoir des sanctions plus efficaces menace qu'elles ne l'ont réellement été. Au départ, on pensait provoquer un effondrement financier de la Russie et une crise de la balance des paiements. Ça, c'était probablement illusoire, puisque la Russie continue à exporter son pétrole, continue à avoir un excédent du compte courant, et provoquer une crise de la balance des paiements, c'est-à-dire un déséquilibre de la balance des paiements extérieurs de la Russie avec un pays qui continue à avoir un très fort excédent commercial, c'est très très difficile.
Mais pourquoi cette approche graduelle? Pourquoi en fait il faut 14 paquets de mesures? À chaque fois qu'il y a un nouveau paquet de mesures, en fait, on est étonné. L'opinion pense que déjà le maximum a été fait. Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout.
Alors c'est justement l'un des enseignements et l'une des grandes leçons des sanctions contre la Russie sur lequel je reviens dans un rapport que je viens de publier pour le Conseil européen pour les relations internationales. C'est que contre des économies qui ont des ressources très importantes, comme la Russie, mais aussi la Chine demain, s'il venait à y avoir un conflit autour de Taïwan, il faut probablement aller vers les mesures les plus efficaces tout de suite, immédiatement, parce que sinon les économies s'adaptent petit à petit aux sanctions, parviennent à les contourner, et on peut même dire qu'en fait on inocule des sanctions. Alors inoculer, c'est injecter une petite quantité d'une maladie qui est bénigne dans un organisme afin que cet organisme devienne immunisé contre cette maladie. Et en fait on fait peut-être de l'inoculation de sanctions en n'allant pas vers les mesures les plus fortes tout de suite, puisque la Russie, quand elle fait face à des sanctions d'intensité modérée, peut se dire, ah oui, très bien, ok, c'est ça qu'ils font, donc on va s'adapter en faisant ceci, cela. Et c'est ce que la Russie a fait notamment pour contourner le plafonnement des exportations russes de pétrole à $60 par baril vers les pays du G7 et de l'Union européenne, en développant une flotte fantôme de navires pétroliers qui mettent les exportations russes de pétrole à l'abri de toutes les mesures occidentales.
Donc ça fait partie, c'est une dernière mesure adoptée, ça vise justement à empêcher qu'il y ait dans les ports européens tous ces services pour ces transports fantômes de produits russes.
Alors en fait, il y a deux mesures différentes. Il y a une mesure qui a été mise en œuvre dans le cadre des pays du G7 et de l'Union européenne qui plafonne le prix du baril exporté par la Russie à $60 si ce pétrole est exporté avec le concours d'entreprises occidentales, de pays du G7 ou de l'Union européenne. Mais ce qu'on voit, c'est que la Russie s'est adaptée à cette mesure et maintenant, avec cette flotte fantôme de bateaux qui n'ont aucun lien avec les pays occidentaux, la Russie peut contourner cette mesure et les bateaux qui n'ont plus aucun lien avec les pays occidentaux transportent aujourd'hui 80% du pétrole russe. Après, il y a également des mesures purement européennes sur la question du gaz naturel liquéfié, puisque la Russie continue à exporter du gaz naturel liquéfié. Et là, en fait, on en revient à la question de la fragmentation européenne sur le sujet, parce que, par exemple, l'Espagne importe beaucoup de GNL russe.
La France aussi.
La France également, oui, mais l'Espagne est vraiment en tête pour les importations de GNL russe. Et en fait, les pays européens ont quand même interdit la réexportation de GNL qui transiterait par les ports européens. Et à nouveau, l'idée, c'est de pénaliser les recettes russes issues des exportations de produits énergétiques, tout en gardant en fait une notion de compromis, puisque les sanctions, ça pénalise aussi potentiellement les pays qui les mettent en œuvre. Et donc, c'est toujours une recherche permanente de compromis. Et sur la question énergétique, certains pays européens ont clairement dit qu'ils ne pourraient pas aujourd'hui se passer de GNL russe.
Alors, on est passé manifestement d'une dépendance du gaz russe en Europe de 45% à quelque chose de l'ordre de 15%. Est-ce que ces 15% résiduels sont maintenant incompressibles ?
Ah, ils ne sont absolument pas incompressibles, puisque en fait, l'Union européenne a décidé de mettre un terme à ses importations d'hydrocarbures russes, donc ça va être le gaz et le pétrole, d'ici fin 2027.
Aujourd'hui. Mais alors, c'est très loin, 2027. Ça veut dire qu'on imagine que la guerre elle va se poursuivre jusqu'en 2027 quand on fait ça?
Alors, pas forcément, puisque ce qu'on peut imaginer, c'est que les sanctions contre la Russie pourraient rester en œuvre longtemps après la fin de la guerre, puisqu'il y a la question également des potentielles négociations après la guerre, si celles-ci viennent à avoir lieu, et également de la confiance qu'on pourra avoir vis-à-vis de la Russie pour mettre en œuvre d'éventuels engagements. Mais en fait, c'est lent une transition énergétique, et aujourd'hui, c'est l'Autriche notamment qui continue, en fait, quasiment 100% du gaz importé par l'Autriche est en provenance de Russie. C'est l'Autriche qui dit « nous avons besoin d'un peu plus de temps ». Et en fait, à nouveau, on en revient à cette idée de fragmentation et de s'assurer que les sanctions sont aussi puissantes que possible, sans perdre des pays européens dans la bataille, qui pourraient mettre leur veto. Et donc, c'est une question de recherche de compromis permanente qui a lieu à Bruxelles. C'est très compliqué, mais à nouveau, on voit que les pays européens ont tenu depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour l'instant, on n'a pas eu de veto ou de pays qui dit stop.
Alors, outre les énergies fossiles, il y a d'autres secteurs cruciaux. On va écouter le monsieur sanction de l'Union européenne, c'est David O'Sullivan, qui est chargé de la mise en œuvre des mesures restrictives. Il s'exprime au sujet des restrictions aux exportations de produits à la pointe de la technologie.
La plupart de ces produits sont typiquement des semi-conducteurs, des circuits intégrés et des lecteurs à fibre optique, des cartes mémoire flash. Des produits qui ont une application civile parfaitement innocente dans des circonstances normales. Mais ils sont aussi fabriqués en grande partie avec des technologies américaines ou européennes. Ils ne sont pas faciles à reproduire dans d'autres pays. Il est donc difficile pour la Russie de se les procurer, puisque nous avons cessé de les exporter et que nous persuadons les autres pays, les pays intermédiaires, de ne plus les exporter vers la Russie. Et je pense que oui, nous avons des preuves que c'est de plus en plus difficile. Les Russes utilisent des produits de substitution, parfois d'origine chinoise, mais qui sont de qualité inférieure, pour être franc. Cela donne donc à l'armée ukrainienne un certain avantage technologique sur le champ de bataille.
Alors, votre avis, je vous voyais un peu hocher de la tête, votre avis sur cette appréciation de l'efficacité de ces sanctions-là?
Alors, si on fait en fait un petit focus sur ces sanctions, ce sont des sanctions contre les importations russes de technologies de pointe et notamment de semi-conducteurs. Et pourquoi est-ce que c'est très important les semi-conducteurs? Parce que c'est présent dans la plupart des matériels militaires de pointe, notamment des missiles. En fait, on peut voir les choses de deux manières. Oui, il y a du contournement de sanctions pour la Russie dans le domaine des semi-conducteurs. La Russie parvient toujours à importer des semi-conducteurs, notamment par des circuits clandestins qui vont transiter par les pays d'Asie centrale ou les pays du Caucase, ou également la Chine, puisque la Chine n'impose pas de sanctions à l'égard de la Russie, et donc la Chine est théoriquement libre d'envoyer des semi-conducteurs vers la Russie.
Oui, mais la Chine aussi, elle est sous sanctions. Par exemple, les États-Unis bloquent les exportations concernant les semi-conducteurs à destination de la Chine.
Mais la Chine produit des semi-conducteurs et elle est libre de les exporter vers la Russie. En fait, c'est toute la question également de comment traquer ces expéditions chinoises de semi-conducteurs vers la Russie, puisque la Chine essaye de ne pas utiliser les circuits financiers occidentaux pour ces transactions. Et donc, que ce soit les Américains ou les Européens, c'est très difficile de savoir réellement ce qu'il se passe quand on a des transactions qui n'utilisent pas le dollar, pas l'euro, pas SWIFT, c'est-à-dire le carnet d'adresses global des banques mondiales. Qu'est-ce qu'il se passe réellement? Et si ça passe par des petites banques chinoises, c'est très difficile. Pour en revenir à la question, si on regarde le verre à moitié vide, oui, la Russie parvient encore à s'approvisionner en semi-conducteurs. Mais il y a quand même en fait une certaine efficacité de ces contrôles sur les exportations de produits technologiques de pointe vers la Russie, puisqu'on voit que les importations russes de semi-conducteurs ont chuté d'un tiers en 2023 par rapport à 2022, à un moment où la Russie a probablement besoin de plus de semi-conducteurs pour soutenir son effort de guerre. Et on voit également que les exportations de produits technologiques vers la Russie coûtent beaucoup plus cher qu'avant. Par exemple, la Turquie, qui est une plaque tournante pour les circuits de contournement de sanctions, on voit que, comme par hasard, le prix médian des exportations turques vers la Russie a augmenté de 80% en 2023. Ça veut bien dire quelque chose. Et enfin, on parle souvent des pays d'Asie centrale qui seraient réellement des plaques tournantes. Alors oui, il y a du contournement de sanctions par les pays d'Asie centrale. On voit des taux de croissance faramineux. Par exemple, les exportations allemandes vers le Kyrgyzstan auraient augmenté de 800% en 2023. C'est tout à fait exact. Mais on reste quand même dans des valeurs faibles, quelques dizaines de millions ou quelques centaines de millions d'euros par an. C'est très faible par rapport aux besoins russes, qui se comptent plutôt en dizaines de milliards. Et donc, il faut remettre les choses en fait en perspective. Oui, la Russie parvient à contourner en partie les sanctions, mais les sanctions ont bien un effet sur la Russie, parce qu'elles veulent dire que la Russie doit utiliser des circuits plus longs, plus coûteux, pour avoir des produits souvent de moins bonne qualité dans le domaine technologique.
Oui, mais si je reviens à ma question de base sur la vérité, sur l'efficacité des sanctions. Sur le terrain, en fait, contrairement à ce que dit M. O'Sullivan, c'est difficile de voir à quel point l'Ukraine profite de ces difficultés de la Russie.
En fait, ce sont deux questions différentes. La question, c'est celle, d'une part, de pénaliser la Russie et de limiter les ressources financières et technologiques de la Russie, et d'autre part, de continuer à soutenir l'Ukraine. Et en fait, on en vient à l'idée que les sanctions ne sont qu'un outil dans la boîte à outils diplomatique des Occidentaux. Il faut continuer à soutenir l'Ukraine, que ce soit militairement ou financièrement, et Un de ses outils pour le faire, c'est de pénaliser la Russie, de limiter ses ressources financières et technologiques. Mais les sanctions ne sont pas non plus un outil magique. Et c'est surtout un marathon plutôt qu'un sprint.
Mais alors, ce qu'on a vu en 2023, c'est quand même un niveau record des échanges commerciaux entre la Chine et la Russie. Alors ça aussi, c'est un problème, parce que est-ce qu'on n'est pas justement en train d'immuniser ces puissances contre les relations commerciales avec les pays européens? Ils n'auront absolument plus besoin de commercer avec l'Europe, ni peut-être un jour avec les États-Unis.
En fait, ce qu'on voit, c'est une fragmentation du paysage économique mondial. Maintenant, pour en revenir à la question des relations économiques entre la Chine et la Russie, effectivement, les relations économiques, le commerce entre la Chine et la Russie a augmenté de 42% l'an dernier. Mais si on le remet en perspective, les exportations chinoises vers la Russie sont à peu près égales aux exportations chinoises vers le Vietnam, qui est une économie quand même bien plus petite que la Russie.
Ouais, ça remet les choses en place.
Ça remet les choses en place, ça remet les choses en perspective. Et ce qu'on voit, c'est que c'est probablement plus un rattrapage en partant d'une base faible, car les échanges économiques entre la Russie et la Chine étaient assez faibles par rapport à la taille de ces deux économies avant la guerre en Ukraine. C'est plus un phénomène de rattrapage, et maintenant on voit que ça se tasse, voire que ça diminue. On voit en fait une légère diminution des échanges commerciaux entre la Chine et la Russie. Pourquoi ? Parce que justement, les Américains disent de plus en plus aux banques chinoises « faites attention ». Si jamais on vous prend sur le fait en train de faire des exportations de matériel militaire vers la Russie, vous allez tomber sous sanctions secondaires, vous n'aurez plus accès au dollar, vous n'aurez plus accès aux circuits financiers occidentaux. Et on voit tout un tas de banques à travers le monde, que ce soit en Chine mais également en Turquie, qui diminuent drastiquement leurs échanges avec les entreprises russes aujourd'hui.
Alors, au niveau du narratif, du discours, on voit que ce récit de l'échec des sanctions, il est donc parfaitement instrumentalisé par les soutiens de Vladimir Poutine. Est-ce que cela ne risque pas d'avoir un effet performatif? C'est-à-dire que, à force de clamer que les sanctions ne servent à rien, ça peut décourager des entreprises de s'y plier?
Alors, décourager des entreprises de s'y plier, probablement pas, puisque une entreprise qui ne se plierait pas aux sanctions aujourd'hui encourt quand même des peines assez importantes, des amendes assez importantes, même si à nouveau on revient à cette question de la fragmentation européenne, puisque les sanctions encourues pour le manque de respect des sanctions varient drastiquement d'un pays à l'autre dans l'Union européenne. La question pour la Russie, dans le domaine performatif, c'est plutôt de diviser les opinions publiques, alimenter cette petite musique que les sanctions ne servent à rien, et surtout dans le discours russe qu'on retrouve tout particulièrement, c'est que les sanctions pénaliseraient les économies européennes plus que l'économie russe. Et ça, c'est archi faux. Il y a eu des études qui ont montré que la chute des exportations françaises vers la Russie consécutive aux sanctions est à peu près égale à 0,1% du PIB français ou 0,4% des exportations françaises. Donc évidemment, pour certaines entreprises, à l'échelle micro, ça va être important. Mais à l'échelle macro, on ne peut pas dire que les sanctions ont eu un impact sur l'économie française.
Et ou allemande.
Ou allemande.
Qui, cependant, est en récession. Là, on vient de l'apprendre pour la deuxième année consécutive.
Alors là, c'est la question, en fait, de l'instrumentalisation par la Russie des approvisionnements en gaz. Puisque l'un des narratifs russes, c'est aussi de dire la hausse des coûts de l'énergie est due aux sanctions. Non, c'est extrêmement faux, puisqu'il n'y a pas de sanctions aujourd'hui, par exemple, sur les approvisionnements en gaz russe. C'est bien la Russie qui a décidé de couper le robinet du gaz. Et la hausse mondiale des cours de l'énergie en 2022, a été consécutive à l'invasion de l'Ukraine, et non pas aux sanctions. Et donc il faut vraiment déconstruire ces narratifs qui souvent inversent la cause et la conséquence pour revenir en fait à la vérité. Et la vérité, c'est que non, les sanctions ne pénalisent pas les économies européennes. Et si la Russie ne voyait aucun impact des sanctions sur son économie, peut-être qu'elle passerait moins de temps à essayer d'alimenter cette désinformation à l'égard des sanctions.
Merci beaucoup, Agathe Desmarais. Je rappelle que vous êtes donc chercheuse à l'ECFR, c'est-à-dire que vous menez en fait les travaux pour le Conseil européen pour les relations internationales dans le domaine de la géoéconomie et des sanctions économiques. En Floride, l'ouragan Milton a provoqué la mort d'au moins 11 personnes, privé des millions d'habitants d'électricité et occasionné de lourds dégâts matériels. Les vidéos de la catastrophe ont fait le tour des réseaux sociaux. Mais il y a aussi énormément de fausses informations autour de cet événement météorologique. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Après l'ouragan Helene, c'est donc au tour de Milton d'être ciblé par les théories complotistes. Un déluge de désinformations poussé notamment par certains influenceurs politiques en plein contexte électoral à moins d'un mois du scrutin, Grégory.
Oui, depuis l'annonce du passage de cet ouragan sur la Floride, des comptes très influents rabâchent le même message. Milton ou Helene ne seraient pas des phénomènes naturels, non. Ces ouragans auraient été volontairement générés par l'homme. Certains accusent l'armée américaine, d'autres le gouvernement démocrate d'être à la manœuvre. Une théorie du complot qui cumule des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux ces derniers jours.
Sur quoi repose cette fausse information, en fait ?
Sur différents documents allant de faux témoignages aux images sorties de leur contexte. L'exemple le plus marquant, c'est une vidéo dans laquelle on voit un tapis de nuages noirs de forme triangulaire au-dessus d'une plage. Les internautes qui la partagent prétendent qu'elle montrerait des nuages fabriqués artificiellement. Sauf que ces images ont été filmées en Floride il y a maintenant 4 ans. Quant à cette formation nuageuse spectaculaire, eh bien tout est naturel. Cette structure baptisée Asperitas par les scientifiques est régulièrement visible en Amérique du Nord.
Et puis certains parlent aussi de l'utilisation d'un programme de recherche à haute fréquence pour manipuler la météo, Grégory.
Le projet ARP, c'est son nom, est pointé du doigt par des milliers d'internautes qui parlent d'une arme météorologique secrète capable de générer des ouragans. Sauf qu'en réalité, ce programme scientifique américain ne vise pas à manipuler la météo. Il a été lancé il y a plus de 30 ans pour étudier l'ionosphère, la couche supérieure de l'atmosphère. Qu'importe, ce projet cristallise aujourd'hui tous les fantasmes complotistes à chaque catastrophe naturelle.
Et qui partage justement ce narratif complotiste ?
Eh bien, là où c'est inquiétant, c'est que ces infox se sont poussés par des personnalités politiques de premier plan côté républicain, à l'image de Marjorie Taylor Greene. L'élu de Géorgie a affirmé dans un tweet que le gouvernement fédéral pouvait contrôler la météo, une façon d'instrumentaliser la catastrophe à moins d'un mois du scrutin présidentiel.
Une stratégie portée d'ailleurs par Donald Trump lui-même.
Oui, le candidat républicain a lancé une véritable campagne de désinformation autour de ces ouragans pour s'attaquer à l'administration de sa rivale Kamala Harris. Il a notamment affirmé à tort que les fonds de soutien aux victimes auraient été détournés pour aider les immigrés clandestins. Ou encore que les démocrates empêcheraient l'arrivée de l'aide dans les territoires républicains. De fausses informations qui ont poussé l'Agence fédérale de gestion des urgences à démentir toutes ces rumeurs sur son site internet.
Et au bout du compte, quelles sont les conséquences de toute cette désinformation ?
Eh bien, le résultat sur le terrain, c'est que les fausses informations prennent parfois le dessus sur les dispositifs de secours et les consignes d'évacuation. Dans certaines régions, des résidents ont discuté de la création d'une milice pour se défendre contre l'arrivée des secouristes de l'Agence fédérale. Une rhétorique électoraliste qui rend donc la catastrophe encore plus dramatique.
Merci Grégory Genevrier. Cette chronique est à retrouver sur notre site internet ou en tapant Info Vérif RFI dans un moteur de recherche où se trouve aussi d'ailleurs l'émission et tous les liens qui vont avec. Une toute dernière information avant de se quitter. À propos du sommet Africa Fact qui vient de se dérouler à Accra au Ghana, c'est un événement qui rassemble des dizaines de journalistes, blogueurs, fact-checkers du continent africain pour échanger sur les grandes tendances de la lutte contre la désinformation, sur les bonnes méthodes, les outils numériques qui permettent de débunker tout ce qui circule d'infox, de fake news et autres manipulations de l'information sur les réseaux sociaux. Alors chaque année, plusieurs prix viennent récompenser les meilleurs spécialiste de la vérification, c'est Adnan Salif Hamidou Sidibé de Face au Check qui remporte la palme du meilleur fact-check de cette année 2024. Et on y reviendra plus en détail dans la prochaine édition des Dessous de l'Infox. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Diego Tenorio à la réalisation. Si vous souhaitez nous adresser des informations douteuses à vérifier, n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp de l'émission au plus 33 6 08 94 93 05. On se retrouve ici même la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI. Je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplain.
Et c'était les Dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera Afrique Soir, l'actualité sur le continent. Et ce sera avec vous et la rédaction Sylvie Berruet. Au sommaire.
Oui, bonsoir à tous. Nous irons en République démocratique du Congo pour une veillée funèbre à Kinshasa pour rendre hommage à la légende du basketball Dikembe Mutombo, star de la NBA dans les années 90. Il est mort à l'âge de 58 ans et cette veillée a lieu dans un hôpital qu'il a fondé. Dans l'actualité également, la Libye relancer le processus de la réconciliation nationale. C'est l'objet de la visite de 48 heures d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine. Le premier sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana également au sommaire. Un sommet qui s'est tenu ce matin à Abidjan. On a parlé d'économie mais aussi de sécurité. Un déploiement de policiers kényans en Haïti, on en parle à Nairobi où s'est rendu le Premier ministre haïtien. Ces policiers kényans qui sont chargés de lutter contre les gangs qui sèment la terreur et qui font la loi à Port-au-Prince. Et puis au sommaire également d'Afrique Soir, du football, troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Il y avait 16 matchs au programme ce vendredi. Et puis musique, nous irons à Marseille pour la 33e édition de la Fiesta des Suds.
Rendez-vous est pris, ce sera donc dans Afrique Soir sur Radio France Internationale. Dans quelques instants, il sera 20h.